Salut les amis.
Salut, salut Charline.
Sympa hier.
On est reboosté. Ouais,
Antoine Duléry nous a donné confiance en nous.
Niveau confiance, on était Joe Wilfried Tsonga et là on est nada.
Ah, ouais, à ce point-là.
Bah écoute,
je suis ravi d'être là parce qu'il y a beaucoup de gens très sympathiques que j'aime beaucoup autour de cette table. C'est vrai. Des gens qui me font rire.
Ça c'est un coup de bol. Il aimait tout le monde.
Non mais ça aurait été d'autres gens, il aurait autant aimé.
Ah non, ça je crois pas. C'est pas le genre du bonheur.
Il adore Isabelle Sorrente par exemple.
Isabelle Sorrente qui a écrit des livres formidables qu'on trouve partout en ce moment dans les gares. C'est Ferrante, je crois.
C'était bien parti.
C'est pas mal parti. C'était quoi les titres d'un dernier livre?
Le dernier s'appelait La Faille.
Je l'ai lu, c'est un roman remarquable. Je vais adapter au cinéma.
C'est un coup de bol, il voulait l'adapter au cinéma.
Guillaume, c'est du pipeau, il savait même pas qui c'était.
Qu'est-ce qui prouve que c'est du pipeau?
Mais enfin, bah, écoute, à la fin du journal.
J'ai adoré Francis Lalanne qui chante.
Oui.
Ouais. Il adore les chansons de Francis Lalanne.
Ouais, j'avoue, ça c'est louche quand même.
Oh, le salaud, tu crois pas qu'il nous aimait vraiment? Parce qu'il a quand même dit ça.
Tu vois, la radio c'est la vie, et la vie c'est la radio. On parle hors radio, on parle à la radio. Moi je crois que c'est ça la vie. Moi je vais te dire, il faut casser les codes.
Il faut pas exclure qu'il en ait pris de la toute bonne d'avoir
C'est vrai que c'est pas très cohérent.
J'ai même dû le couper.
Tu peux défiscaliser ta
Ah, c'est le moment où on passe un disque. Si, c'est le moment où on passe un disque.
Ouais, j'avoue, c'est pas défendable. Là,
bon, en tout cas, j'espère que l'invité d'aujourd'hui, il nous aimera autant qu'Antoine Duléry.
Ah, ce qui est certain, c'est qu'Antoine Duléry, il adore l'invité d'aujourd'hui.
Ouais,
hein.
Mais comment tu sais ça?
Feeling. Bonjour la France Inter. Nous sommes le 12 juin 2018. Soit le 354e jour de captivité pour Nicolas Hulot, toujours attaché au radiateur du gouvernement. Mobilisons-nous avant qu'il ne finisse comme Jean-Vincent Placé, hashtag Free Nicolas. Et voici le menu de cette émission que nous lui dédions, bien sûr. L'Aquarius et les 629 réfugiés à bord se sont fait refouler d'Italie, refouler de Malte et implicitement refouler de France, donc cap vers l'Espagne. C'est plus une opération de sauvetage, c'est le Vendée Globe.
Il reste plus qu'à y aller à la nage maintenant.
La France autorise l'importation d'huile de palme pour en faire du biocarburant. Même notre organisme carbure à l'huile de palme, elle est partout dans le bol de céréales, la lessive ou les biscuits apéritifs. Donc il y en a plein dans nos enfants, prévenons les mamans.
Qu'est-ce qu'elle te fait à manger?
De l'huile.
Question épineuse, attention qui concerne tout le monde. Que faire des dessins de nos enfants?
Ah, pas tout le monde.
Je t'ai ou des dessins des enfants des autres. Voilà. Ah, c'est clivant comme débat, attention.
J'ai déjà trois magnifiques dessins de carottes. Mais deux fois une heure et demie par semaine, trois heures par semaine, ils dessinent des carottes. Ça va durer jusqu'à Noël. C'est quoi cette histoire?
Hashtag je suis NKM. Lui, il a une préoccupation similaire. Que faire de ma carte d'abonnement à la salle de sport? C'est Alex Vizorek.
Venant de vous, je trouve ça très très bas.
C'est moche.
C'est moche.
C'est moche.
Mais je vous ai quand même offert une belle équipe autour de la table à 17h20. Celui qui est concurrencé par la météo actuelle, car normalement, c'est lui qui provoque les coups de foudre. C'est vous, André Manoukian, bonjour.
Yeah. Wow. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Je vais vous parler d'un pianiste romantique qui s'appelle Jérémy Ababou.
Très bien.
Et je parlerai de Spinoza aussi.
Ah oui, oui, ça me semble un peu court comme présentation.
Et je parlerai aussi de la dualité de l'âme et du corps.
Et tout
mais
ça
quel rapport
en
avec le
2 minutes 30, ça va être formidable. À 17h30, celui qui aime cette météo, car il est toujours bien content quand la nature se venge sur les hommes, ce que nous manquons pas de lui rappeler quand il a une gastro, c'est vous, Guillaume Meurice.
Bonjour, quelle belle présentation. Je vais vous parler de la journée de la ferme digitale.
Oh,
attention,
non.
C'est les agriculteurs de la Startup Nation.
Un fer à souder et puis on disrupte un outil, il n'y a pas de souci.
Il y aura du disruptage d'outils.
Et enfin à 17h40, celle qui est très perturbée par tous ces orages qui s'abattent sur la France, autant d'eau, ça l'angoisse. Bonjour Juliette Arnaud.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
Un récit. Une histoire vraie.
Une belle histoire.
Et comme... Non, c'est pas une belle histoire, c'est une histoire qui se passe dans la pègre.
Mais vrai, voilà.
Mais vrai.
Allez, je me tourne vers celle qui va disrupter avec nous. Vous débutez au magazine Marianne, puis vous travaillez pendant 10 ans pour les émissions de Jean-Pierre Coff sur cette antenne. Vous partez alors en reportage dans les campagnes. Vous participez à l'émission Actuality sur France 2 avant de la quitter après une altercation avec Maud Fontenoy. Donc vous dénoncez. Hashtag.
On l'embrasse.
Et Nicolas. Prosélytisme, pro-GM, pro-gaz de schiste, pro-lobby, enfin Maud Fontenoy quoi. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais dont le livre noir de l'agriculture ou du courage sur la veulerie des politiciens français vis-à-vis des paysans. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, you are
Isabelle Saporta.
Ah
oui,
yes.
C'est elle.
Oui, oui, apparemment.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
par Jupiter.
Bienvenue Isabelle Saborta.
Et ben, je suis très heureuse d'être là.
Mais on est ravis de vous accueillir.
C'est pas votre Antoine Duléry, hein.
Mais je connais pas Belmondo, je l'ai pas croisé dans la loge, donc ça va être quand même, voilà. Côté VIP, je suis moins bonne.
On vous connaît notamment, pour, je l'ai dit, pour vos essais sur le monde des paysans, de l'agriculture, aussi tous les jours sur dans Circuit Court sur Europe 1, donc toutes nos condoléances.
Quelle mauvaise.
Quelle méchante.
Oh, quelle est
mauvaise.
Mais c'est parce qu'elle est amoureuse de Patrick.
Ah,
elle a été
ça.
Très très touchée par son départ.
Attendez. On tape pas sur les petits.
Chers auditeurs, nous accueillons Isabelle Saporta pour un roman qui s'appelle Le Prince Charmant, c'est vous, paru aux éditions Fayard. Et donc, comme on vous connaît comme essayiste, vous voilà dans le roman avec une part autobiographique. Alors, on se demandait qu'est-ce qui pousse une essayiste, une journaliste, à raconter son expérience personnelle.
Avec André Manoukian.
Avec André Manoukian. Et Spinoza. Et en 2 minutes 30.
On n'a jamais l'un sans l'autre.
Et voilà. Et bah, écoutez, 30, alors un tout petit peu plus. Et donc, le truc, c'est que ce qui est bien dans notre beau métier, Charline, c'est que quand on fait un burn-out, on peut en faire un roman, si vous voulez. Donc moi, je trouve que c'est le côté un peu sympathique du
truc.
Ça vient
de là.
Non, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette espèce d'image de guerrière contre la FNSEA, contre les lobbies des pesticides, etc. Et j'avais toutes mes copines qui me disaient « Ah, mais c'est incroyable! Mais t'es un vrai bulldozer, t'es un tank, mais toi, il n'y a rien qui touche, t'es toujours souriant, t'es toujours en guerre, t'es toujours en pleine forme. » Et ben non, en fait. Et là, j'avais envie d'écrire un roman de copine, en fait. Une comédie où je disais en fait, moi, des fois, ça va pas si bien que ça. Mm-hmm. C'est aussi un peu compliqué. Et sauf que comme j'avais pas envie ni d'en faire un essai sur le rôle de l'homme et de la femme, ni d'en faire une tragédie, j'ai plutôt eu envie d'en faire un livre où on se marre. Et donc, voilà, c'était l'idée.
D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une veine un peu livre bien-être, finalement ?
Oui.
Parce que le titre, c'est « Le prince charmant, c'est vous ». Alors, on comprend que c'est vous-même.
ouais, c'est moi.
Mais quand on voit le titre, ça pourrait s'adresser à nous. Et donc, il y a une volonté d'accompagnement, c'est ça, de
monsieur,
d'essayer
c'est ça
de donner un côté positif aux choses avec le sourire.
Eh ben, ouais, c'est exactement ça. C'était l'idée, c'est au fond de se dire. C'est vrai que, alors, nous, les filles, il y a un vrai souci, hein, c'est qu'on est quand même élevé dans l'idée que le prince charmant va arriver. Je veux dire, même moi, qui ai 40 ans passé. Non, vous êtes là, mais en fait, vous n'êtes pas vraiment là. C'est ça le vrai problème.
C'est-à-dire qu'à trois, on ne peut pas s'occuper de ça. C'est ça le vrai problème.
Et c'est que quand même, on nous berce d'illusions, si je puis me permettre, parce que vous avez beaucoup de qualités, vous êtes très sympathique et ce n'est pas du tout un livre anti-homme. Mais de fait, vous n'êtes jamais tout à fait à la hauteur des grandes, grandes espérances qu'on met en vous. Et c'est une erreur. Et du coup, j'avais envie de dire un peu à toutes les femmes qui me lisent, qui sont comme moi, qui travaillent et qui ont des enfants, que voilà, en fait, l'idée du prince charmant, c'est bien. Mais en fait, on va laisser ça à notre part de petite fille, en nous, et se dire que c'est nous, et prendre un peu les choses en main, et voilà, et je pense que ça se passe mieux comme ça. C'était un peu l'idée.
Vous expliquez que vous menez de front plein de choses, vous avez les enfants, le mari qui travaille pas forcément, qui prépare un
pas
concours,
trop,
le fait que vous, voilà, il y a les rendez-vous pour les enfants, il y a votre travail, etc. Donc finalement, c'est une quarantenaire qui décrit aussi son époque à travers son regard dans une... Voilà, une vie active,
ça.
Urbaine.
Mais c'est ça, moi j'ai envie de vous dire qu'on est un peu, nous les femmes, les cocus de la révolution sexuelle. C'est-à-dire qu'on nous a dit, ouais, c'est extraordinaire, tu vas voir, vous allez devenir des hommes comme les autres. On est devenus des hommes comme les autres, on travaille
non.
comme les hommes,
non.
sauf qu'on est payés comme des femmes.
On est restés monogames. Ah non, c'est peut-être là qu'on n'a pas bien compris.
Là, je sais pas, parce que je vais vous dire un truc, il y a quand même un truc avec toutes mes copines qui font cocus leur mec, c'est qu'à un moment, si vous voulez, moi je veux bien qu'il y ait que des hommes qui fassent cocus leur femme, mais ils trouvent forcément des nanas qui font cocus.
Merci
leur
madame,
mec.
Merci.
Je trouve que c'est bien et que c'est ça, c'est au moins un truc sur lequel on a progressé, on est un peu moins cruche qu'on l'a été et je pense qu'on on vit peut-être pas tout à fait comme des hommes mais voilà. Non, le seul truc sur lequel on s'est fait vraiment avoir, c'est sur le pognon. Sur le pognon, on est toujours payé comme des femmes. Hein, et sur les enfants, parce que sur les enfants, malgré tout, même si vous êtes charmant, et je regarde ce pauvre Alex Vitorek qui n'est pour rien en fait, mais vous êtes en face de moi, et donc c'est que les enfants, les trois quarts des emmerdes, j'ai envie de dire, restent quand même plutôt pour nous. Maintenant, je regarde Manoukian qui a un regard désespéré.
Parce qu'Alex, il a été classe, il n'a pas fait l'enfant.
C'est pas de ma faute si je ne les entendais pas pleurer la nuit.
Allez, Isabelle Saporta est avec nous jusqu'à 18h. Et donc, elle publie Le Prince Charmant, c'est vous, aux éditions Fayard. On va parler Huile de Palme, on va parler
Marius.
Et dessin d'enfant, bien sûr. On aura l'occasion d'y revenir. I don't know.
trapped in the fever, down in my soul,
down in my soul.
Just hoping once for a breather,
giving me hope.
I tried again, I tried again, yet I'm stuck inside again. Ray, I just losing every way. No time to waste, no time to waste. With every ticking minute, like my dreams just run away. So I'm holding on, I'm holding on, I'm holding on to all I am. Still I'm holding on, I'm holding on, I'm holding on to all I am. With all I hope,
all I hope.
Just hoping I never crumble like cracks in the wall,
like cracks in the wall.
Inside again, Ray, I just lose and never win. No time to waste, no time to waste. With every ticking minute, like my dreams just run away. So I'm holding on, I'm holding on.
Soldingon, vous l'aurez compris, cette éclipse avec un K. Sur France Inter, il est 17h20 et Isabelle Saporta est en notre compagnie qui publie un roman, Le Prince Charmant c'est vous, édition Fayard. Et pour l'entourer, Alex ?
Nous sommes en compagnie de Spinoza, de Jean Jaurès et de Françoise Sagan.
Oh, c'est pas mal.
Pas mal. Dans le désordre,
merci Jean-Louis.
Salaud.
André Manoukian, oui, et Juliette Arnaud sont avec nous. Et au milieu de tout ça, il y a l'information.
Nous devons accueillir des réfugiés car c'est notre tradition et notre honneur.
Le journal de presque 17h17.
Vas-y, les traditions se perdent.
Et oui, car on commence par les titres et l'Aquarius est en route vers l'Espagne.
Oui, après Manuel Valls à Barcelone, l'Espagne semble disposée à accepter toute la misère du monde.
Donald Trump a rencontré Kim Jong-un à Singapour.
Oui, depuis qu'il a vu les images ce matin, Jean-Louis David a fait un AVC.
Les brèves en route vers l'Espagne aussi ou
non,
pas
France Inter s'est dit prête à accepter un cargo de brèves.
Ah, là on accepte la misère aussi.
Fermez les ports.
Commençons par cet événement historique.
Eh bien, c'est fait, ça y est, la poignée de main entre Donald Trump et Kim Jong-un a eu lieu cette nuit à Singapour.
Oui, enfin, on va quand même attendre que Donald Trump remonte dans son avion et écrive son premier tweet avant de se réjouir. Il peut encore traiter Kim Jong-un de face de citron bouffeur de chien, donc pas d'emballement quand même.
En tout cas, pour l'instant, Donald Trump se dit prêt à inviter Kim Jong-un à la Maison Blanche.
Quelle belle soirée pyjama où ils vont jouer Action Vérité, ça va être très sympa.
D'un duo comique à l'autre.
Oui, le premier ministre belge Charles Michel était hier à Paris pour rencontrer Édouard Philippe et ils nous ont fait leur nouveau sketch sur l'accueil des migrants.
La Belgique n'a pas de port en mer Méditerranée à ce stade. Premier point.
Ça devrait durer.
Je le crains.
Rigolade. Sans transition.
Le président de l'Assemblée de Corse propose à SOS Méditerranée d'accueillir l'Aquarius dans un port en Corse, alors que la position officielle de la France ne bouge toujours pas.
Voilà, c'est beau. Si on m'avait dit un jour que les Corses seraient moins fainéants que les Français de la métropole, c'est touchant.
Passons à Toulouse.
Oui, où des aides-soignants et des usagers toulousains ont voulu montrer à Agnès Buzyn leur mécontentement quant aux problèmes d'effectifs en chanson. Orelsan.
Soignant, c'est une vocation, mais ça veut pas dire qu'on va pas perdre patience. Simple. Le taf de 4 fait à 2, tu deviens pas Shiva même si t'es en transe. Basique. Personne ne veut avoir à choisir entre douche, popo ou pansement. Simple. Personne ne veut avoir à mourir pour des putains de raisons d'argent. Basique.
Voilà, on aime. Si c'était ta... on vous en parle. Allez, écoutez l'entièreté.
Santé, toujours selon une étude, vivre près d'un aéroport augmenterait le risque d'hypertension.
Ah, mais si ça se trouve, c'est pour ça que Jean-Marc Ayrault voulait Notre-Dame-des-Landes pour dépasser les deux de tension. Enfin.
Culture, Yvette Horner, l'accordéoniste la plus célèbre de France, quoi. Elle est morte à l'âge de 95 ans.
Mais
Yvette Horner, elle est décédée.
Oui,
quand même.
Mais si Matt Pokora l'apprend, il va proposer un album de reprise et je ne vais pas survivre à ça.
Ah,
hein, suite de chansons. Donc,
raison. Dans un documentaire sur BFM TV titré Johnny Laetitia. À la vie, à la mort, on apprend que le chanteur avait affublé sa femme d'un surnom peu flatteur, bon, Mère Teresa.
Oui, peu flatteur, mais surtout complètement à côté de la plaque. Laetitia, la seule pauvre qu'elle a aidée dans sa vie, c'est elle-même.
Et des brèves.
Oui, des préservatifs vegan et sans gluten désormais disponibles à la vente.
Non.
Si, une aubaine pour toutes celles qui espèrent coucher avec Guillaume Meurice après ces spectacles.
C'est moi qui les ai mis en vente.
On termine par un point météo.
Oui, ce matin, on a recensé plus de 580 km de bouchons en Île-de-France en raison notamment des inondations.
Et 580 km ouais. De circulation en accordéon. Pff, superbe hommage de la ville de Paris à Yvette Horner. Pardon, excusez-moi.
Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Ils sont quand même pas malins.
Pour les chocolats.
17h24 sur France Inter. Isabelle Saporta est en notre compagnie. Il y a aussi André Manoukian et Juliette Arnaud. Et nous allons aborder ce premier sujet avec vous. Le bateau de SOS Méditerranée, l'Aquarius, qui a mis le cap sur Valence en Espagne avec ses 629 réfugiés à bord. Donc c'est plus un sauvetage, c'est une croisière, mais une croisière de la honte, et pas que pour Malte ou l'Italie, mais aussi pour la France. La France a une bonne excuse, hein, ses autorités ne sont pas très disposées. Oui, Gérard Collomb est très mal à l'aise sur les bateaux.
Eh oui, quand il faut y aller, il faut y aller. Je crois que ce ne sera pas possible, on est dans les gars de la houle.
Montez sur le pont.
Je sens que je vais avoir un malaise.
Montez sur le pont.
Je sens que je vais avoir un malaise.
Je m'en fous. Foutez-moi ça à l'eau.
Mon Dieu, dans le sang, je vais avoir un étourdissement.
Foutez-moi ça à l'eau.
Je voudrais remonter, j'ai des angoisses.
Excuse valable. Le gendarme se marie, un film de Jean Giraud. Je signale aussi qu'il y a 134 enfants à bord et 7 femmes enceintes. Et le bateau excède bien sûr sa capacité de plus de 100 personnes. Alors donc apparemment, derrière les dernières informations, il y a 2 bateaux qui vont venir pour récupérer ces réfugiés qui puissent accéder aux côtes espagnoles. Alors Isabelle Saporta, l'Italie a dit non, Malte a dit non. Et la France ?
La France n'a pas dit grand-chose, on est d'accord ?
Oui, on est d'accord.
Non, c'est ça, il y a l'Écorce quand même pour sauver notre honneur. C'est bien, non ? Moi, je suis contente, j'aime bien l'Écorce, j'adore. Je suis fouteur de merde professionnel, j'adore. Ça, c'est mon côté, vous voyez, je suis tout en empathie avec les fouteurs de merde. Donc, non, mais en plus, on a des fachos au pouvoir en Italie, donc on n'est pas tout à fait étonné. Ouais. Et par ailleurs, ce que j'ai trouvé étonnant, j'ai regardé des informations qui étaient données par François Guémen, qui est un spécialiste
qu'on reçoit d'ailleurs la semaine prochaine, qui est un spécialiste des migrations, notamment climatiques.
Et qui expliquait que, en fait, le taux de migrants en Italie n'avait jamais été aussi bas depuis 2013 et qu'il y en avait 3 fois moins qu'en 2017. Donc en plus, on est en train de nous vendre qu'il n'y en a jamais eu autant alors que c'est faux. Bon, donc déjà, c'est insupportable. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il y a une vraie problématique qui n'est pas que française, qui est européenne. C'est-à-dire qu'au fond, là, de quoi on a l'air ? Si on est en train de faire l'Europe politique, on est en train de dire qu'on va faire une Europe sociale et on érige des barrières pour tous les gens qui essaient de s'en sortir. Ouais, vous avez réussi à me faire rire avec ça tout à l'heure, Charline. Je trouve que vous êtes forte parce que c'est pas évident, je crois.
C'est toute une équipe.
Vous êtes forte.
Emmanuel Macron, lui, il a dénoncé mardi en Conseil des ministres. Aujourd'hui, en fait, la part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien. On doit le prendre comment, ça, vous croyez ? Parce que c'est pas un peu fort de...
Punchline.
Ouais.
Est-ce qu'il y croit quand il le dit ? Moi, il y a un côté fascinant là-dedans, je me dis.
Il est génial, hein, quand même.
C'est fou, quoi.
C'est-à-dire cette espèce de... Oui, de...
Jusqu'où va le cynisme, quoi.
Ouais.
C'est ça qui est assez dingo.
Ah, moi, je pense qu'il n'y a pas de limite. C'est là on s'en rend compte avec ce gouvernement, c'est le bullshit d'or tous les jours. Espèce de truc.
C'est fascinant, c'est de l'art contemporain.
C'est ça. À chaque fois, tu te dis, ah là, ils sont allés au bout. Eh ben non.
Et est-ce que si les Corses ne s'étaient pas exprimés en disant on est prêt à nous à les accueillir, est-ce que le gouvernement aurait réagi ? C'est la question aussi.
Ils sont obligés de réagir. En plus, aujourd'hui, il y avait les questions au gouvernement, donc ils ont tous été interrogés là-dessus. Enfin, tous, pas tous, mais...
Donc il y aurait de toute façon une
réaction. Il y aurait une réaction, il était obligé, ouais.
Mais est-ce qu'il y a vraiment, de la part des citoyens français, un sentiment de malaise et de honte de la part du pays ? Bon, nous, on est belges, on ne se rend pas bien compte.
On n'a pas de bord,
mais... C'est la chance que vous avez, c'est ça. Non, mais je pense qu'il y a une partie... le problème, si vous voulez, c'est marrant d'ailleurs, c'est tous les mots par avant. Quand tu dis migrant, quand tu dis SDF, c'est que tu veux vraiment pas voir l'humain derrière. Hein. Mmh. Donc tu te dis, oh là là, migrant, ça fait peur. Et puis ils sont pas tout à fait comme nous, ils sont migrants quand même. Hein. Donc je pense qu'il y a toute une partie de la population qui a honte et qui sait pas où se foutre. Et il y a toute une partie de la population qui a la trouille aussi. Parce que si vous voulez, si... Regardez les réactions quand je vois Marine Le Pen, quand je vois tous les mecs autour d'elle. On voit bien qu'on sort sur cette trouille viscérale qu'a une partie de la France de la diagonale du vide, faut dire les choses, qui ne verra jamais un migrant de sa vie, mm-hmm. mais qui flippe dans son coin tout seul, abandonné, parce qu'il n'y a plus de service public, il n'y a plus rien. Je ne vous dis pas que ce soit bien, que c'est bien, mais c'est un fait. Donc moi, je vois bien ce que fait le Premier ministre italien. Il fait d'ailleurs ce que nous, on fait un petit peu plus mollement, de façon un peu plus chic. C'est au fond de surfer sur les trouilles. C'est dire, non, mais vous inquiétez pas, on ne les aura pas tous chez nous, on en prendra quelques-uns, mais pas trop, puis les plus gentils, puis ça se trouve les plus diplômés, puis bon, et puis.
Les meilleurs escaladeurs.
Voilà, les meilleurs escaladeurs.
On fera du benchmarking en les choisissant.
Ouais. Ah oui, c'est ça. Et c'est ça qui fait un peu flipper dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je trouve.
Et voilà, et je rappelle qu'on peut bien sûr toujours aider l'Aquarius, SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières en donnant de l'argent à sosméditerranée.fr. Une sortie, la journée de sortie, c'est 11 000 euros. Et là, ils vont avoir besoin d'un peu d'aide. Donc allons-y, relançons, profitons-en pour relancer l'aide à SOS Méditerranée, ouais, qu'on salue, qui a lancé son appel à Marseille justement vendredi, en plus le 8 juin. André Manoukian,
oui.
C'est Spinoza maintenant.
C'est Spinoza, oui, oui. Après le duo, merci, qui était
Madame Monsieur,
voilà.
Sur la naissance de cet enfant sur l'Aquarius, justement.
Exactement. Moi, je vais vous parler d'un autre duo, un duo fameux et antagoniste qui existe depuis l'Antiquité et qui nous en a chanté des chansons, qui nous en a pondu des poésies, qui en a inspiré des sentiments et des spéculations et des discussions et des brouilles et des embrouilles et des bûchers. Oui, on en a cramé quelques-uns pour avoir dit des mots qu'il ne fallait pas dire. Mais à propos de quoi? Eh bien, à propos de la dualité de l'âme et du corps. Ouah, cette opposition, c'est dingue, non?
Hein, c'est vrai que c'est fou.
Ouais, j'y vais carrément, ouais, franco. Cette opposition qui est née dans la caverne de Platon et qui nous empoisonne et qui nous dit que nous ne voyons que l'ombre des choses, attachés que nous sommes à des chaînes, le dos contre l'ouverture de la caverne d'où vient la lumière, nous n'avons le loisir de ne contempler que les ombres projetées sur la paroi du fond, les ombres de ceux qui passent derrière nous. Et si par hasard nous avions la force de secouer nos chaînes et de nous retourner, nous serions aveuglés par la lumière. Eh ben, on est dans un bel état. Le monde de la lumière est le monde de l'idée, selon Platon. Le monde idéal, le monde tel que nous le percevons, lui n'est qu'un théâtre d'ombre, une pantomime d'illusion. Bon, c'est un peu raide, mais en tout cas, l'idée fait un carton dans le monde occidental. Et de Platon à Descartes, le dogme de la supériorité de l'âme sur le corps nous casse les couilles, il faut franchement le dire. Alors merci Spinoza, merci pour vous être opposé à cette opposition, à la suprématie de la conscience sur le corps, tout comme à celle du corps sur la conscience d'ailleurs. Spinoza parle de parallélisme, de puissance double. La conscience n'est pas la patronne du corps, comme le corps n'est pas plus le patron de la conscience. D'ailleurs, notre conscience elle-même est une illusion, puisqu'elle ne recueille de la nature que les effets dont elle ignore les causes. Chaque corps est un ensemble plus vaste que les parties qu'il compose. Et chaque idée est une immensité contenant des bouts de conscience qui nous habitent. Quand un corps rencontre un autre corps, Charline, une idée, une autre idée, Guillaume, et que les deux rapports se composent pour former un tout plus puissant, alors nous éprouvons de la joie, mais alors une joie formidable, pas une petite joie de pacotille, la grande joie spinozienne en somme. La même que l'on éprouve quand la connerie des gens qu'interviewe Guillaume Meurice rencontre nos petites conneries à nous et qu'elles se composent pour former une connerie plus puissante, alors on jouit d'appartenir à la grande connerie universelle. Nous éprouvons de la joie lorsqu'un corps rencontre le nôtre et se compose avec lui, lorsqu'une idée rencontre notre âme et se compose avec elle. Nous éprouvons de la tristesse, au contraire, lorsqu'un corps ou une idée menace notre propre cohérence. Voilà pourquoi écouter une chanson triste ne peut pas nous rendre triste. Parce que si elle est vraiment triste, la chanson, et qu'on est soi-même triste, eh ben elle renforce notre tristesse. La perte d'un être aimé, par exemple, à tel point qu'elle produit un sentiment plus grand que le petit sentiment qui nous faisait pleurer. Et que soudain se dessine un paysage somptueux et immense, bien plus beau que la pétroleuse ou le bellâtre qui nous ont lâchement largués par SMS après s'être barré avec notre meilleur pote. Et soudain, on la remercie, cette conne ou ce con, de nous avoir donné le pouvoir de raisonner pour transformer notre petit chagrin d'amour minable en sublime tristesse comique et universelle. Ça, c'est la grâce de la musique. Lui, il s'appelle Jérémy Ababou. C'est un jeune pianiste d'origine israélienne qui nous livre son second album, intitulé sobrement Nuances, où chaque composition oscille entre poésie et profondeur et nous permet de méditer sur l'impermanence du monde et de l'amour qui passe si vite que quand il est à notre portée, Charline, il faut plonger sans réfléchir.
Oui.
Plongeons, Charline.
Oui,
plongeons,
André, oui.
Plongeons.
Aider à essayer de vous emballer, auditeur de France Inter, avec Jérémy Ababou. Chanson d'hiver. Merci André.
Ça belle voix, en tout cas.
Magnifique
belle
chronique.
Sobriété.
Juste Alex Vizorek qui demandait mais quand est-ce qu'il va se mettre à chanter.
Non, c'est très joli. C'est le deuxième album donc, de Jérémy Ababou, excellent pianiste. Et vous, Dédé, magnifique chronique, un croisement entre Raphaël Antovone et Rocco Siffredi. C'était magnifique. Merci André. 17h36 sur France Inter, où nous recevons Isabelle Saporta pour son roman qui s'intitule Le Prince Charmant, c'est vous, paru aux éditions Fayard. Vous êtes aussi, on peut dire, spécialiste du monde paysan, de l'agriculture. Et donc, je pense que la chronique de l'individu 6 à votre droite, Guillaume Meurice.
Oui. Encore une bien belle journée dans la Startup Nation aujourd'hui, Charline. Puisque c'est la journée de la ferme digitale. On n'en avait pas rêvé. Ben, ils l'ont fait quand même, les salauds. Ils ont benchmarké les patates. Ils ont pitché les courgettes. Ils ont upgradé les carottes. Alors, ils appellent ça l'agrotech. Et tous les acteurs se réunissaient aujourd'hui, porte de la Villette. Alors, on va pas se mentir, dire, moi ça me fascine, hein, c'est un petit peu Disneyland pour moi. J'y vais avec du pop-corn transgénique et puis je me régale la nouille sans gluten. Mais je sais que ça vous plaît aussi. Attention, hein, je sais qu'autour de la table, il y en a qui ont la fibre agricole. On sait que Juliette, on l'a fait fermenter du raisin régulièrement et qu'André, il aime faire du blé. Alors, c'est vrai qu'il y a l'occasion de faire du blé, il y a des dés. Alors je propose donc une visite guidée dans le nouveau monde de l'agriculture. Alors on va d'abord commencer par le côté digital avec une start-up qui propose du conseil, mais pas n'importe lequel, du conseil augmenté. Qu'est-ce que c'est ?
Le conseil augmenté, c'est du conseil traditionnel tel qu'on a l'habitude de le connaître, dans lequel nous, on va rajouter du digital, de la data et une innovation qu'on appelle le design thinking, qui est une méthode qui permet de disrupter facilement, d'aller chercher de l'innovation. On ne peut plus faire du conseil à la papa. On est obligé d'y ajouter aujourd'hui data, digital, design thinking.
Des mots qui font Startup Nation.
Et alors des mots qui le font, ça, voilà, clairement, mais c'est aussi des convictions très fortes.
Ah oui, il y a des convictions très très fortes. On sent la conviction de te conseiller bien profond, mais en ayant pris soin avant pour lubrifier de donner un coup de langue qu'on appelle la novlangue. Et la novlangue, elle s'utilise dans l'agriculture et dans l'agriculture technologique. Exemple.
Et nous, on développe une techno qu'on appelle le PIX, qui est pour faire simple, une imprimante à produits phytosanitaires.
Une imprimante en produits phytosanitaires, c'est-à-dire une imprimante
on
en...
On l'a simplifié, voilà.
Donc une imprimante en pesticides.
Pesticides, c'est un mot qui fait peur, donc les nous, on dit produits phyto.
C'est quoi la différence entre un pesticide et un produit phytosanitaire ?
C'est à peu près la même chose.
Ouais, c'est complètement la même chose, on va dire. Mais bon, c'est quand même plus cool de dire phytosanitaire que pesticide. C'est l'équivalent de Nordal Lelandais, hein, quand il dit qu'il fait du covoiturage. Faites gaffe quand même. Alors ça, c'est pour les plantes, mais il y a des innovations technologiques pour les animaux, notamment les poules qu'on stocke dans des hangars par milliers, hein, et qui du coup s'emmerdent comme Gérard Collomb au Salon de la Fraternité. Alors, il y a une société française qui a créé un robot, là, j'ai la petite brochure, qui s'appelle Spoutnik, le robot. Alors, qu'est-ce qu'il fait Spoutnik ?
Eh bien, Spoutnik, il circule dans les poulaillers. En fait, grosso modo, aujourd'hui, le robot Spoutnik vient circuler justement pour animer un petit peu le poulailler, déranger un petit peu les poules pour que, bah, justement, elles s'éduquent elles-mêmes à aller pondre dans les nichoirs. Et puis voilà.
Donc c'est un robot qui emmerde des poules...
Qui les anime, qui les emmerde.
Qui les anime,
voilà,
pardon.
Voilà.
Pour qu'elles aillent pondre.
Exactement.
Pour qu'elles soient plus productives, en fait.
Exactement.
Et bien alors, qui c'est qui a créé un robot pour emmerder les poules ? C'est l'homo sapiens, ton de Dieu, c'est nous les plus forts. Ah, c'est pas une poule qui aurait créé un robot pour animer les couloirs de la maison de la radio. Pourtant, il y en aurait bien besoin, parfois. Mais alors, ça, je dirais que c'est le niveau 1 de l'agriculture technologique, parce que je vous présente, sans plus attendre, la vache connectée.
Bah, la vache va devenir l'animal le plus connecté au monde, puisqu'on va l'équiper de détecteurs de chaleur, de détecteurs de vêlage, de détecteurs de rumination. Et c'est quelque chose d'assez génial, puisqu'on va être capable non plus de faire de la gestion collective d'un troupeau, mais de se réintéresser à l'animal un par un.
Donc c'est plus du transhumanisme, c'est du transvache.
Du transbovin, ouais.
Voilà, du transbovin, on n'est pas bien avec nos vaches à capteurs, avec nos vaches connectées. On connaissait déjà les blaireaux qui tweetent, hein, le président des États-Unis notamment. Et bien voici les vaches 3.0. Autant dire que le petit pécor avec ses 10 vaches qu'il appelle par leur prénom, hein, il passe pour un gros bolos. Marguerite, elle a bien le seum. Maintenant, on veut des troupeaux de vaches avec de la traçabilité de vaches.
Avec la technologie, on va être capable de prouver les bonnes pratiques des éleveurs. C'est-à-dire qu'un éleveur qui dit « moi je garantis 180 jours de pâturage à mes vaches », si elle a un collier avec un GPS, il va être capable de démontrer que ses vaches sortent effectivement 180.
Et oui, les vaches à GPS, hein, on se demande toujours pourquoi il y a des millions de tonnes de satellites qu'on envoie dans l'espace. Eh bien, c'est pour regarder si Jean-Claude, il sort bien ses vaches 180 jours par an. C'est la NSA mise au service des vaches. Hein, voilà, on peut même vérifier si elles ne jouent pas à Candy Crush pendant les heures de traite. Et puis voilà, si elles ne se planquent pas pour pas aller crever à l'abattoir. Parce qu'avec les vaches, on le sait, tout est une question de deal et de contrat.
C'est le contrat de soins historique de l'humanité avec les animaux. Mais moi je ne suis pas végétarien, je pense que si on les élève, le contrat qu'on passe avec elles, c'est d'en prendre soin et de les élever correctement.
Mais est-ce qu'elles, elles l'ont signé le contrat de soins ?
Ah non. Mais est-ce que nous, on
n'ont pas signé avec leurs sabots.
Ouais, mais est-ce que nous, on a signé pour vivre en France ? On a de la chance. Mais est-ce qu'on a signé pour naître en Syrie ? Est-ce qu'on a signé pour naître en Afrique du Sud ? Enfin, on démarre dans la vie avec les chances et la malchance qu'on a.
Ah bah oui, démerdez-vous avec votre malchance, les vaches. Moi, j'ai la chance d'être né à une époque où on castre les porcelets à vif, où on met des GPS à des vaches et où on laisse crever les agriculteurs par centaines. Rappelons que c'est pas la planète, hein, qui est en danger, mais l'humanité, parce que la nature, elle va pas tarder à nous disrupter la gueule.
Merci, Guillaume Meurice.
À votre service.
Isabelle Saporta,
oh là là.
C'est un cauchemar.
Oui. C'est un cauchemar. Non mais c'est vrai qu'ils sont hyper contents. C'est le truc de l'agriculture productiviste, c'est vraiment les chadocs, quoi. Hein. Donc plus ça foire, plus on espère que ça va marcher à un moment, vous voyez. Et le truc c'est que effectivement ils se posent jamais la question de faire un truc simple. Donc maintenant il y a des détecteurs de chaleur, donc la truie fait bip bip et c'est le moment de l'inséminer. Il y a effectivement des porcs souffleurs qui viennent souffler au cul de la truie, mais qui ont jamais le droit de la baiser parce que voilà. le vérin, lui, il est conformé de telle manière que de toute façon, il peut pas baiser la truie parce qu'il ferait un arrêt cardiaque parce qu'il est tout en jambon. Donc, on est obligé d'avoir un branleur de vérin, donc avec une machine pour branler le vérin, pour gaucher ou pour droitier. Donc ça, c'est moi, c'est mon grand truc. Ma patronne à Fayard, Sophie de Closet, à chaque fois quelqu'un l'ennuie en lui disant, moi, je suis quand même pas trop contente ici ou trop content, elle me dit, mais tu pourrais être branleur de vérin dans, sur cette terre. Et de fait, là, ouais, ça donne à réfléchir.
Non, donc là, on a atteint un stade.
On a atteint de stade
ultime, quoi.
Dément, quoi. Ouais. Voilà.
Oui, et, de démence,
et là où Guillaume Meurice a raison, c'est que en plus, il regarde avec mépris ceux qui font en fait bien en osmose avec les animaux, qui ont l'air de cons parce que ils n'ont pas une vache qui fait bip bip.
Ils n'ont pas le robot à poule.
Ils n'ont pas le robot à poule. Et ils n'ont pas tout ça pour faire chier les animaux en fait.
Eh bien, Isabelle Saporta avec nous et on va aborder ce deuxième sujet qui est aussi connexe à toutes vos préoccupations, bien sûr, les agriculteurs qui bloquent les raffineries parce que Total va importer de l'huile de palme de Malaisie et d'Indonésie afin de faire du biocarburant. L'huile de palme, c'est dégueulasse pour la santé, hein, ça on le sait, mais aussi pour l'environnement, parce que cultiver les palmiers, ça demande de l'espace. Et donc, on va pas vous faire un dessin, on va plutôt vous mettre un extrait.
On a des places incroyables pour aller voir Johnny au Stade de France. Elle va parrainer un déjeuner de charité à Monaco.
Heureusement, il y a le jet.
En tout cas, sachez que je reverse, pour chaque trajet, la contribution carbone à une association qui implante des arbres.
Ce sont les mêmes arbres que vous arrachez en Indonésie pour produire de l'huile de palme?
Je sauve la planète en créant des emplois. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il faut arrêter cette vision bipolaire du monde. Le bien, le mal, les opprimants, les dominés. On est tous dans la même galère.
François-Xavier de Maison dans « Moi, Michel G, milliardaire maître du monde ». C'est un film de Stéphane Kazandjian. Il est là le problème, Isabelle, la déforestation pour replanter les palmiers. Et nous qui voulons faire du biocarburant alors qu'on n'arrive pas à nourrir toute la planète. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais l'huile de palme, on est conscientisé avec ça depuis quelques temps.
Mais c'est dément. Et alors, on va s'entraîner ensemble, Charline, on va dire agrocarburant. Parce que biocarburant,
ouais,
moi déjà,
ben
c'est plus rien, je vous jure. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le bullshit qu'ils essayent de nous faire passer. C'est-à-dire qu'au fond, ce serait joli, ce serait bien, ce serait mieux que l'essence. Mais c'est de la merde. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a en fait trouvé une idée géniale qui est d'utiliser de la nourriture, en fait, pour faire tourner les bagnoles. Ça n'a aucun sens. Et c'est vrai que là, Nicolas Hulot, j'avoue, hein, notre ministre de l'Environnement, numéro 3 du gouvernement.
Hashtag Free Nicolas!
Hashtag Free Nicolas, hashtag ministre d'État, quand même, qui est le mec dont on attendait quelque chose et on attend toujours, j'ai envie de vous dire. Comment il a fait pour signer l'autorisation d'importation de 300 000 tonnes d'huile de palme pour faire tourner la raffinerie de la Med, la raffinerie totale, je ne sais pas. Parce que, vous avez raison, l'huile de palme, on en trouve partout, dans notre nourriture, dans nos cosmétiques, dans notre
dentifrice, dans la lessive, partout.
Ouais. Mais, et vous
même
savez,
dans Nicolas Hulot, il y a de l'huile de palme.
Alors moi, je pense qu'il y en a maintenant dans Nicolas Hulot, le pauvre. Mais vous savez, vous souvenez, Ségolène Royal était partie en guerre contre le Nutella, enfin contre les pâtes à tartiner, chocolat.
C'est à ce moment-là qu'on a eu le déclic quand même pour le grand public. Hein, ouais.
Et là, sauf que, si vous voulez, par exemple, la pâte à tartiner en France, la consommation d'huile de palme dedans, c'est 16 000 tonnes. Alors que là, avec les agrocarburants, on va passer à 300 000 tonnes. Donc, si vous voulez, en gros, 76% de la consommation d'huile de palme en France, c'est les agrocarburants. Donc, nous, on va s'arrêter. Vous savez, quand j'entends toujours, il y en a toujours deux, trois qui nous disent « Ah, mais arrêtez votre Nutella avec l'huile de palme !» Ben oui, on peut déjà arrêter, c'est déjà bien pour nos artères,
pour
tout ça.
Ouais, pour le régime de Dédé,
je me serais pas permis d'aider.
Pour le trou de la sécu aussi.
J'ai répété bêtement ce qu'il avait dit, mais je ne me serais jamais permis spontanément. Mais en tout cas, pour la consommation d'huile de palme, ce qu'il faut, c'est arrêter les agrocarburants. Et alors, le bullshit d'or, parce que là aussi, ils sont bons, il n'y a pas que sur les migrants qui soient bons, ils sont bons aussi pour ça, c'est que, quand même, au niveau européen, le Parlement avait réussi à dire dans les énergies renouvelables, ne comptons plus les agrocarburants avec de l'huile de palme. Et la France, du coup, maintenant, eh ben, bataille contre ce résultat du Parlement européen en disant, bah ouais, mais nous, on est bien embêtés, parce qu'on a les 300 000 tonnes dont on a besoin.
Qui arrivent, là. Ben voilà, les migrants arrivent. N'arrivent pas, mais...
Voilà, c'est ça. Oui, donc, ce serait quand même ballot qu'on vote pour faire en sorte que ce soit plus une belle énergie verte, ce truc plein d'huile de palme pourrie. Donc, c'est vrai que, ouais, on est, quand vous dites, il faut libérer Nicolas Hulot, je pense qu'il est temps.
Ça devient vital.
Mais
on
je
va
crois
créer
que
d'ailleurs un comité, hein, je pense, de libération, et puis vous serez signataire, j'espère.
Eh ben, avec grand avec plaisir. Nous, moi, voilà, j'ai beaucoup ri quand j'ai vu votre tweet, j'ai dû te dire.
C'est vrai que depuis deux semaines, nous lançons un appel quotidien à sa libération. C'est sûr.
Tiens,
c'est aussi un aspect que vous effleurez dans votre roman Le Prince Charmant, c'est vous, édition Fayard. Vous racontez, vous, journaliste plutôt parisienne, qui sillonne quand même les campagnes et qui arrive un moment à vous déjeuner un moment avec un, avec un paysan et il vous emmène dans un espèce de resto-route comme un flunch ou comme ça, où vous expliquez qu'en fait il a même pas les moyens de finalement d'acheter la bonne viande qui est produite et qu'il mange au flunch avec vous. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé dans votre roman.
Ben oui, mais parce que si vous voulez, le truc c'est que c'est vrai que bon, mais en même temps c'est bien une réflexion de bourgeoise et de parisienne que je suis, mais c'est vrai que t'as ces mecs qui à longueur de journée me disent les consommateurs c'est pas bien, ils mettent pas les 3 centimes qu'il faudrait de plus pour acheter la bonne viande, ce qui est ma viande, etc. Et finalement eux-mêmes sont tellement étranglés, c'est et pas leur faute, hein, ils gagnent 350 euros par mois, qu'ils se retrouvent à manger la mauvaise viande aussi dans le mauvais truc, voilà. Et donc c'est vrai qu'on vient, on est dans ce paradoxe, et c'est pour ça que moi je suis toujours embêtée quand on dit c'est la faute du consommateur si l'agriculture change pas. Non, si l'agriculture change pas, c'est de la faute des politiques. Je veux dire, il y a un moment, il faut quand même dire les choses. Aujourd'hui, la politique agricole commune, c'est quasiment 10 milliards. Si on les met sur la bio, sur l'élevage extensif et pas sur l'élevage avec le robot poulette, là, le robot Sputnik, hein, et ben, ça se passera mieux, vous voyez ce que je veux dire.
Isabelle Saporta avec nous, qui vient donc nous parler d'un roman. Et la littérature, c'est Le Rayon de Juliette Arnoux.
Oui, alors là, ça va être plus... alors, c'est pas la littérature, puisque c'est... Enfin, si, enfin, c'est un récit. Alors, pour partir du début, ce qu'on pense, nous, Français, Occidentaux en général, ce qu'on pense savoir de la pègre, c'est d'une fiction qu'on le tient, c'est Du Parrain, écrit par Mario Puzo et mis en scène admirablement quelques années plus tard par Coppola. Alors, la mafia, la pègre, son organisation, ses principes, sa violence, toujours d'abord feutrée. Je vais te faire une proposition que tu pourras pas refuser. Puis, bien réelle. Tiens, j'ai mis la tête de ton cheval préféré dans ton lit, mais pas le corps. Et toujours, au centre, une famille qui se serre les coudes, quoi qu'il arrive. Et puis un jour, il y a un des fils, un des frères, cette buse de Fredo, qui fait une grosse bêtise, et Michael, son frère, le fait buter pendant une partie de pêche. Avant, il lui avait dit « Tu ne mets plus rien. Maintenant, ni un frère, ni un ami, rien. Fredo aurait dû se méfier, il me semble, mais Fredo est une buse, et Fredo ira rejoindre les poissons. » Façon fer à repasser. Au centre, donc, plus qu'une famille, l'idée que la famille trahit aussi. Somptueux, magnifique, ce film intense, mais bon, il n'en reste que Le Parrain, c'est pas pour de vrai. Alors que ce livre-là, Judas, c'est une histoire vraie, écrite par une femme, la sœur d'un patron de la pègre néerlandaise, extrêmement fameux là-bas, Wim Holleder, principal responsable de l'enlèvement du patron de Heineken en 1983. Il a été chopé suite à cet enlèvement, il a fait de la prison, il en est sorti et il a repris ses activités avec une ampleur exponentielle, drogue, bordel, extorsion. Un mec super. Comme c'est un mec super, il fait mener à sa fratrie une vie à l'avenant. Et l'auteur, sa sœur, Astrid, a beau être devenue avocate, elle est terrorisée par lui et par la conviction que de toute façon, la justice de son pays ne peut pas la protéger si elle s'avisait de se rebeller. Et puis un jour, Wim passe un cap, le cap du parrain, et il fait buter son beau-frère, Cor, c'est-à-dire le mari de sa sœur, le père de ses neveux et accessoirement son meilleur pote depuis l'adolescence et associé en gangstérisme. Les deux sœurs, Astrid et Sonia, elles savent que c'est Wim le commanditaire. Lui ne le dit jamais tout à fait clairement parce qu'il est persuadé que tout le monde l'écoute et il a raison. Mais Astrid et Sonia le savent. Et là, Astrid convainc Sonia qu'il faut dénoncer Wim. Qu'à elles deux, deux sœurs si unies, si différentes, elles viendront à bout d'un type ultra-violent, 2 mètres de haut, 1 mètre de large, qu'elle décrit ainsi. Il avait passé 16 ans sous le toit d'un père timbré, plus de 40 ans au sommet de la pègre. Grâce à son intelligence, à son don de manipulateur, à son manque total d'empathie, il avait développé un instinct de conservation hors norme. Incapable de nouer des liens émotionnels, il survivait à tout et à tout le monde. Sauf que Wim, bah c'est quand même leur frère. Et que faire de sorte que ce chien enragé soit mis hors d'état de nuire, bah ça va nécessiter des trésors de patience, de courage pur. Et puis surtout, il va falloir accepter l'idée que même si ça réussit de le mettre hors d'état de nuire, elles ne se seront pas pour autant d'être en danger. Et puis il va falloir accepter une autre idée, l'idée d'être Judas. Et oui, tu vends ton frère, tu le donnes, t'es Judas. Pour ce faire, Astrid va devoir muscler son jeu. Sans aucun aimé jaquet pour lui sériner « Muscle ton jeu, Robert, parce que tu es trop gentil ». Pas d'aimé jaquet, pas d'hommes, deux femmes, deux sœurs, au courage insensé. Et ce courage, croyez-moi, vous allez le sentir bien en lisant les 500 pages. C'est des pages terrifiées, souvent prises de doute, des pages tellement désireuses de comprendre comment Wim est devenu ce mec-là, comment cette fratrie s'est retrouvée prise par lui au fil des années, au sein d'une famille massacrée par un père déjà pas mal abominable, dans un quartier populaire d'Amsterdam. Et là, quand t'es une femme, tu te souviens que Judas, c'est un personnage masculin, et que c'est Wim qui est Judas, et certainement pas ses sœurs. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, c'est paru chez qui ?
Alors, c'est les éditions du Sous-Sol. Mm-hmm. Et pour faire plaisir à Alex, je vais donner le nom des traductrices, Brigitte Zwerer-Béret et Yvonne Petrequin. L'auteur, elle s'appelle Astrid Holleder.
Merci Juju, 17h52 sur France Inter avec Isabelle Saporta. Et on va aborder ce dernier sujet, que faire des dessins de nos enfants?
Ah oui.
Les accumuler ou les jeter discrétos?
C'est moche.
Vous pouvez plus les encadrer, mais les prendre en photo peut-être avant de les jeter. Épineuse question qui se pose d'ailleurs à tout âge.
Maman, vous en avez fait quoi de mon autoportrait?
Ah mais oui c'est vrai, il n'est plus à sa place ce joli tableau.
C'est pas normal, demande à ton père.
Sûr que vous l'avez vendu.
Pourquoi t'as vendu le tableau de Ségolène?
C'est malin, on est complètement anéanti maintenant.
Enfin, écoutez, je suis un peu qui voudrait acheter une croûte pareille. Donc je l'ai fait tomber en la remontant au grenier, qui est sa place naturelle. Mais oui, on l'accrochait au mur dès que Ségolène venait à Chinon.
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu de Philippe de Chauvron? Cette question, que faire des dessins de nos enfants, est posée sur slate.fr. Et quand on lit votre roman, Le prince charmant, c'est vous, Isabelle, on sait qu'il y a tous les plaisirs des enfants, hein, les poux, etc. Alors vous avez deux filles, qu'est-ce que vous faites des dessins? Est-ce que vous avez une technique?
Alors moi, il y a un des dessins qui fait la couverture de mon roman quand même.
Ah, c'est vrai, il a été dessiné par ma fille.
Aînée. Donc j'ai une fille aînée qui est très talentueuse.
Ah,
de fait.
Et
l'autre qui a 6 ans. Donc on peut lui laisser une marge de progression. Okay. Vous êtes d'accord avec moi?
Oui.
Donc moi je suis plutôt dans l'accumulation. C'est-à-dire, je me réjouis. Après il y a un moment où j'ai peur de perdre, donc je prends en photo. Donc je me réjouis, j'accumule, je prends en photo, donc j'accumule.
C'est bien commode ça,
j'accumule
en
également
photo.
et en fait généralement après je perds et j'égare et là je suis bouleversée, mais ça me permet de faire un peu de vide.
Et ça arrive qu'elle vous demande et il est où mon dessin? Maman.
Ah non, mais c'est pas dans ces cas-là, c'est pas comme ça qu'elle lui dit. C'est
maman, t'avais quoi mon dessin?
C'est plutôt comme ça. Plus dans le drame. Juliette Arnaud.
Ouais, non, moi la question que je me posais, c'est comment les parents ils se rendent bien compte que leurs enfants ils progressent pas tellement en dessin? Ils progressent dans, en général,
moi,
ils apprennent à lire, à écrire, oui, à part votre astre.
Moi, c'est un astre.
En général, il n'y a pas de progrès.
Entre 3 et 8, normalement, il y a une évolution.
Oui, il y a une évolution, mais après, ça s'arrête.
Oui.
Donc là, c'est le moment où on peut dire à l'enfant...
Il y a un moment, il faut être honnête, c'est ça le...
Oui.
Ah non, l'honnêteté, c'est jamais bon, mais nulle part. Ah. Ni en amour, ni avec votre mec, ni avec vos enfants. Enfin, jamais il faut être honnête. C'est l'honnêteté, c'est un bullshit, c'est macronien, l'honnêteté. C'est un truc. Ça n'existe pas, quoi.
Chut, n'écoutez pas les enfants.
Est-ce qu'on peut peut-être garder les dessins et jeter les enfants?
Slate.fr ne le mentionne pas,
mais
c'est une bonne idée.
Dans ce cas-là.
Et s'il y avait un rôle pour Isabelle Saporta qui aime déjà imiter ses filles, donc...
Un rôle dans le sketch et elle va être contente. Parce que oui, il y a le sommet. Il y a le sommet Donald Trump, Kim Jong-un. Mais il y a un contre-sommet dont on a moins parlé. Les deux femmes. Vous êtes Melania Trump. Elle s'est rendue discrètement en Corée, rencontrer Charline, qui est Madame Kim Jong-un. Guillaume est son majordome. Moi, je vous accompagne. Que s'est-il dit là-bas? Madame Melania Trump, première dame des États-Unis.
Hello, je suis Melania Trump.
Oui, je sais, il vient de le dire.
Et voici mon amant, pardon, mon aide de camp.
Enchantée. Madame...
Appelez-moi Kim Jong-il.
Première dame de la République populaire et démocratique de Corée du Nord.
Mon Donald, il est juste populaire.
Mon Kim, il est ni l'un ni l'autre.
Excusez-moi, j'avais pas fini. Première dame de la République populaire et démocratique de Corée du Nord. Fleur éternelle de la péninsule. Soleil de la révolution. Petite mamounette du peuple. Saint nourricier au lait abondant chèvre.
Oui, ça va aller.
C'est joli, moi, aux États-Unis, on m'appelle juste Poussy.
Alors, chère Poussy, je voudrais qu'on parle de nos maris.
Très bien.
Le mien est très occupé. Il part tôt le matin, je ne le vois presque pas.
Ah non, il joue au golf?
Non, il gère le pays depuis son bureau.
What? Il a pas Twitter?
Mesdames, souhaitez-vous manger quelque chose?
Avec plaisir.
Attention à ne pas vous faire empoisonner.
Pas d'inquiétude, le poison c'est pour les opposants politiques.
Ah, très bien, je vais vous en prendre un petit peu pour Stormy Daniels.
Pardon, pour qui?
Stormy Daniels, c'est à elle que je sous-traite la partie pénible de mon job.
Alors, je peux vous proposer un excellent canard laqué?
Oui, mais vous connaissez Donald?
Non, il a dit canard laqué.
Ah oui, j'avais compris, connard laqué.
Oh, c'est beau l'amour.
Sinon, on a du cochon farci.
Ne faites pas de remarques sur Monsieur Trump.
Très bien, balance ton porc.
Justement, je voudrais vous parler de...
Dites-moi.
Du physique de nos maris.
Clairement, on a un problème de diététicien.
Oui, je pense qu'ils ont le même.
Oui, je pense qu'il est mort.
Oui, dans le même accident que le coiffeur.
Vous savez ce qu'on devrait faire?
Non.
Parler avec quelqu'un qui a les mêmes problèmes que nous.
C'est ça, on va appeler Monsieur Merkel.
Excellente idée!
Allez, fêtons ça au saké.
Ah non, je peux pas le saquer.
Vous parlez de Donald.
Vous êtes drôle.
On aurait dû se rencontrer plus tôt.
C'est exactement ce que se disent nos maris en ce moment.
Et accent nord-coréen presque parfait.
Oui, pas, si, pas trop prononcé.
Si, mais c'était bien, hein, élégant.
Pas très, je
tiens à vous féliciter.
Mais du Nord, hein, du
oui,
Nord.
Oui, ah bah, j'ai reconnu, moi, parce que je sais.
Sud-coréen, c'est différent. Merci, Isabelle Saporta.
Merci à vous, c'était un plaisir d'être là.
Eh bien, écoutez, pour nous aussi, je rappelle que si on vous connaît comme essayiste ou sur circuit court, sur Europe 1 avec Maxime Switek, rappelez-nous l'heure.
Et Anne Le Gall.
Oui, tout à fait. À quelle heure? À 13h.
À 13h15.
15, voilà. Sur Europe 1, profitez-en. Et en attendant,
méchante,
mais qui aime bien châtie bien, on vous embrasse, on embrasse vos co-religionnaires comme on dit. Et vous, vous publiez Le Prince Charmant, c'est vous, paru aux éditions Fayard. Merci les amis, merci mais Guillaume, merci. Alex, merci Juliette Arnaud, André Manoukian, et on va se retrouver demain avec la comédienne Judith Chemla. Et on laisse le mot de la fin à Gérard Collomb qui fait un petit blocage avec l'Aquarius.
Je crois que ce ne sera pas possible, on a tué dans les gars de la houle.